Vous écoutez RTL.
Il est 8h.
h 9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Et avec Philippe Corbet pour le journal. Bonjour Philippe.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, la grève des pilotes d'Air France, très suivie.
Une grève indécente, vient de dire sur RTL le numéro 1 de la CFDT. Un vol sur deux, on va faire le point sur les perturbations. Et vous allez comprendre comment Air France s'organise pour faire décoller le plus d'avions possible. Même les cadres sont mobilisés. La conférence sur l'Irak au Quai d'Orsay, les premiers vols de rafales de reconnaissance français viennent de débuter. Le procès Xynthia, 4 ans et demi après la catastrophe qui avait tué 29 personnes à la Faute-sur-Mer, vous en parliez. Le maire craint de servir de bouc émissaire dans ce dossier. Et puis le football, les leaders, Marseille 2e après sa victoire 3-1 contre Evian.
Après ce journal, on n'est pas forcément d'accord. Tribune libre et opinion affirmée. Ce matin, Olivier Mazerolle, la gauche est à la barre toute la semaine. Que doit faire le président pour tenter de retrouver votre confiance? On retrouve Olivier dans 10 minutes.
Le 8h, Philippe Corbet.
RTL Matin.
Mais d'abord, l'histoire d'un homme qui a sauvé des vies aux dépens de la sienne. C'est un pilote expérimenté, instructeur de haut niveau chez Airbus, qui s'est sacrifié lorsque son Cessna, un avion de tourisme, est parti en vrille au-dessus de zone pavillonnaire de Tarbes samedi. Il a tout fait pour éviter une tragédie et il y a laissé sa vie. Yves Guillaume a assisté à l'accident.
Au moment du largage, il était au-dessus de la ville et il a été vers des zones où il n'y a que des champs. Il s'est battu avec l'avion, il s'est battu jusqu'au bout non seulement pour essayer d'éviter la ville, parce qu'il savait très bien que l'avion il le récupérait pas, mais en plus il a tout fait pour pas qu'il prenne feu et voilà. Il a coupé le contact, il a coupé les magnétos pour pas que l'avion s'enflamme à l'impact. Après il a essayé de sortir de l'avion, mais c'était trop tard, il a été éjecté au moment de l'impact.
Éric Fradin a eu un comportement héroïque.
Ah mais là je peux vous le confirmer, il a même passé un appel radio à la tour en disant qu'il allait se crasher. C'est quelqu'un d'exceptionnel.
Un témoignage recueilli par Patrick Tégéraud.
5 prévenus, 120 parties civiles et 5 semaines d'audience. Le procès Xynthia débute à 14h au Sable d'Olonne, au Vendée.
Oui, cette nuit de février 2010, 29 habitants de la Faute-sur-Mer avaient trouvé la mort chez eux, surpris dans leur sommeil, emprisonnés dans leur maison par la brutale montée des eaux et les torrents de boue dans ces lotissements qui auraient dû être classés inconstructibles. Cindy Hubert, il ne va pas être aisé pour les juges de déterminer exactement les responsabilités.
Eh bien, c'est évidemment toute la difficulté de ce procès. Le soir de la tempête, personne ne s'attendait à ce déferlement de vagues d'eau et de boue. René Maratier, le maire du village de l'époque, chauffeur routier à la retraite, aurait-il pu faire quelque chose pour éviter le drame? Le principal prévenu dit penser aux 29 morts tous les jours. Le roi René, comme le surnomment certains à la faute. Son avocat, maître Antonin Lévy, redoute que la justice en fasse un bouc émissaire.
Dans la chaîne hiérarchique jusqu'assez haut dans l'État, certains acteurs avaient des plus grands moyens. Il n'y a pas d'école de maire pour pouvoir anticiper les catastrophes naturelle et légère. Et c'est vrai qu'on fait aujourd'hui peser sur lui la totalité de la responsabilité d'un événement climatique imprévisible.
Le juge d'instruction décrit pourtant un aveuglement collectif. Des lotissements ont poussé juste derrière la digue, en dessous du niveau de la mer. Dès 2001, à de nombreuses reprises, le préfet met en garde la mairie. Cette cuvette est dangereuse. Alors pourquoi, à la suite de ce que la justice appelle un marchandage, ces terrains sont-ils restés en zone bleue, inondables mais constructibles, sans que la population en soit d'ailleurs informée? La justice a un mois pour répondre.
Cindy Hubert. Air France prévoit un peu moins d'un vol sur deux pour cette première journée de grève des pilotes. C'est une grève qui va durer toute la semaine. Une grève indécente, vient de dénoncer sur RTL le leader de la CFDT. Julien Fautrat, qui est à l'aéroport de Nice, nous disait tout à l'heure qu'il était presque désert puisque les clients ont été prévenus. 65 000 SMS ont ainsi été envoyés par la compagnie pour les prévenir. Raphaël Vantard, vous êtes à Orly, près de Paris. Comment ça se passe?
Eh bien écoutez, ici aussi Air France a prévenu ses passagers par messagerie internet et sur les téléphones portables, ce qui fait qu'il n'y a pas de cohue ni de gros attroupements de voyageurs laissés pour compte, mais les perturbations, elles sont bien présentes. Patrick vient d'en faire les frais, il devait décoller pour le sud-ouest de la France.
Non, c'est pas facile, je devais aller à Biarritz et les vols sont annulés. Tous les vols d'aujourd'hui sont annulés, il faut que j'attende demain. Il faut que je trouve une solution, mais j'ai rendez-vous avec des médecins. Et voilà quoi, c'est la galère.
Et finalement, Patrick vient de décider de prendre une voiture de location pour rallier Biarritz en espérant pouvoir revenir demain en avion. Mais ça, on le saura en fin de matinée puisque la direction d'Air France doit communiquer ses prévisions de trafic pour demain et les négociations avec les pilotes de ligne devraient reprendre dans la journée.
Et on suivra ça avec vous, Raphaël Vantard. C'est la première fois depuis 12 ans que les pilotes font grève. Ils protestent contre la stratégie low cost du groupe via sa filiale Transavia. Air France perd 10 à 15 millions d'euros par jour de grève. Alors, Alors Eric Vanier, dites-nous comment la compagnie se mobilise pour faire décoller le maximum d'avions.
Mobilisation des cadres d'abord et des pilotes qui travaillent dans les filiales comme Hop pour remplacer les grévistes. Ensuite, regroupement des passagers sur les vols maintenus en faisant décoller si possible des gros porteurs. Enfin, affrètement d'avions et d'équipages auprès de compagnies partenaires. La saison estivale touche à sa fin, il y a des avions disponibles. Mais le problème dans tout système de transport, c'est que chaque jour qui passe accentue la désorganisation quand il y a grève. Les appareils et les pilotes non grévistes finissent par ne plus être au bon endroit car les rotations ne se font plus ou mal. Les perturbations pourraient donc s'amplifier au fil de la semaine. La direction s'est engagée à prévenir par mail, téléphone ou SMS tous les passagers dont le vol est supprimé, mais il n'y aura pas que des annulations, des changements d'horaire ou d'aéroport sont possibles aussi. C'est pourquoi, avant de se rendre à l'aéroport, surtout renseignez-vous, notamment en vous connectant au site d'Air France qui donne des informations sur les vols en temps réel, car en période de grève, ça peut bouger jusqu'au dernier moment.
Toutes les informations sur cette grève au fil de la journée sur RTL.fr.
Et les pilotes d'Air France ne sont pas les seuls à faire grève. Mouvement illimité des inspecteurs du permis de conduire qui, eux, s'opposent à la réforme du permis. Les examens seront perturbés. Grève des huissiers aussi, c'est une première. Ils protestent contre le projet de loi sur les professions libérales. On rappelle que c'est aussi le dernier jour pour payer le dernier tiers de votre impôt sur le revenu. Dépêchez-vous si vous ne l'avez pas fait. Et puis à partir d'aujourd'hui, les frais d'agence immobilière sont plafonnés. À Paris, par exemple, les honoraires vont parfois être divisés par deux.
Excellente nouvelle. À tout de suite, Barack Obama qui accuse François Hollande de payer des rançons aux terroristes.
RTL Matin, 8h06.
J'ai fait une réunion par webcam, c'est génial cette technologie. On peut faire des affaires à des milliers de kilomètres.
Et moi j'ai commandé le nouveau Fiat Ducato, c'est aussi génial comme technologie. Et avec, on va aussi pouvoir faire des affaires à des milliers de kilomètres.
Ducato série spéciale Pack Pro Nav avec navigation tactile, Bluetooth, radar de recul, climatisation, commande au volant, radio CD MP3 et port USB. À partir de 199€ hors taxes par mois avec 5 ans de garantie. Nouveau Fiat Ducato, une nouvelle génération de pros. Offre réservée aux professionnels, hors loueur et flotte jusqu'au 31 octobre chez les distributeurs participants sous réserve d'acceptation du dossier. Conditions sur fiatprofessionnel.fr.
RTL Matin.
RTL 8h07, Philippe Corbet, Yves Calvi.
La conférence sur l'Irak ouvre dans une heure et demie au Quai d'Orsay.
Et d'ailleurs, les vols de reconnaissance français viennent de débuter, annonce ce matin le ministre de la Défense, qui se trouve sur notre base aérienne aux Émirats Arabes Unis, d'où partent les rafales. Cette conférence sur l'Irak, c'est le coup d'envoi symbolique de la coalition militaire contre l'État islamique, même si dans la trentaine de pays représentés par leurs ministres, aujourd'hui, on trouve aussi la Russie. L'Iran, elle, ne sera pas là. On en saura plus sur la participation des pays occidentaux et arabes. Le Royaume-Uni a déjà confirmé sa participation à des frappes après la diffusion de la vidéo de l'assassinat d'un otage. A-t-on vraiment raison d'intervenir au risque de subir peut-être en France des représailles avec des attentats ou des attaques de djihadistes ? Les avis recueillis par Yannick Holland en Alsace sont partagés.
Ça inquiète, effectivement. Y aller, intervenir par la voie aérienne, tout à fait d'accord. Ensuite, déployer les troupes, c'est vraiment très, très délicat.
Moi, je trouve que c'est dangereux pour y aller. Ma peur, c'est que, voilà, que ça ramène la guerre. Voilà, c'est ça. J'ai énormément peur de ça.
De toute façon, le danger, il est continu. À l'époque de Mohamed Merah, il n'y avait pas spécialement d'intervention de la France. Et il s'est quand même passé ce qui s'est passé. Donc, le risque, il est continu, qu'on intervienne ou pas. Mais je ne pense pas qu'il faut laisser faire les choses.
Et bien entendu, vos réactions et vos avis à vous aussi au 32-10.
On entendait à l'instant les craintes d'attentats. La question n'est plus de savoir s'il y aura un attentat en France, mais quand, reconnaît ce matin dans Le Parisien le patron de la lutte antiterroriste. Les députés examinent justement ce lundi le projet de loi pour lutter contre le terrorisme. Il sera désormais possible de bloquer les sites qui font l'apologie du terrorisme. Alors que le secrétaire d'État américain sera justement aujourd'hui au Quai d'Orsay, Barack Obama s'en prend directement à François Hollande sur cette question de l'islamisme. Avec nous, Rémi Sulmont, le correspondant du RTL aux États-Unis. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Et si on se fie aux propos rapportés par le New York Times, le président américain reproche au chef de l'État d'affirmer ne pas payer de rançon aux terroristes, alors qu'en réalité, il le fait.
Oui, Barack Obama n'a pas dit les choses publiquement. Il est passé par des experts et des éditorialistes en les recevant la semaine dernière à la Maison-Blanche. La conversation portait sur la guerre contre l'État islamique et le président, évoquant les journalistes américains décapités, a noté que les États-Unis ne payaient pas de rançon, contrairement à la France, a insisté Obama, irrité sur ce point par François Hollande, selon le compte-rendu du New York Times. C'est la deuxième fois en quelques jours que l'Amérique rappelle sa doctrine en matière de rançon. La famille du journaliste James Foley vient de révéler qu'elle avait été menacée de représailles pénales par des conseillers d'Obama lorsqu'elle avait tenté de rassembler une potentielle rançon. Mais l'administration américaine, qui dit refuser de négocier avec des terroristes, s'affranchit parfois de ses principes. En mai dernier, Obama avait fait libérer le dernier soldat américain prisonnier en Afghanistan en relâchant 5 talibans de Guantanamo.
Rémi Sulmont du bureau RTL de New York. Une enquête du New York Times il y a quelques semaines montrait que la France avait payé plus de 30 millions d'euros à Al-Qaïda au Maghreb islamique pour les 4 otages.
Le football, Lille en tête de la Ligue 1 après sa victoire contre Nantes, 2-0.
Bordeaux a dû céder son fauteuil de leader après sa défaite 2-1 à Guingamp. Marseille, deuxième en battant Evian, 3-1. Sans surprise, les États-Unis ont atomisé les Serbes en finale du mondial de basket, 129-92. Les Bleus vont fêter leur 3e place cet après-midi sur les Champs-Élysées. Objectif maintenant pour eux, l'Euro 2015 en France, avec une finale de prestige à Lille. Nouvelle capitale du sport français, Lille, puisque c'est aussi au stade Pierre-Mauroy que devrait être organisée, Jean-Michel Rascol, la finale de la Coupe Davis de tennis entre la France et la Suisse qui a éliminé l'Italie.
Sous la pelouse du grand stade de Lille, il existe une surface de spectacle à la dimension d'un demi-terrain de football, une aréna sur laquelle sera construit le court. Christophe Fagnaise, directeur délégué de la Fédération française de tennis.
On va donc installer sur cette aréna un court, toute surface indoor étant possible. Et puis on va installer une tribune événementielle pour venir fermer le court, de telle sorte que sur sa base, en tout cas, les joueurs, eh bien, du public des quatre côtés.
Mais le week-end précédent, le grand stade accueille un super motocross et il faudra donc construire le court sous terre avant de le remonter à la surface. Au final, un théâtre de 27 000 places que devra valider la Fédération internationale de tennis.
On peut penser que quand l'ITF viendra faire la visite de repérage avec nous, elle sera aussi favorablement impressionnée. Notre souci, on n'arrêtera pas de le dire, c'est de permettre au plus grand nombre de venir assister à cette finale historique.
Dernier écueil, le match Lille-Évian-Thonon-Gaillard de Ligue 1 qu'il faut inverser aux footballeurs maintenant de se montrer solidaires.
Et ce sera fin novembre. C'est le lancement aujourd'hui en France de Netflix, un service de films et de séries à la demande. Netflix va révolutionner la manière dont on regarde la télévision et vous allez le comprendre avec ce témoignage d'une famille new-yorkaise et Gibson rencontré par le correspondant RTL. Ils n'étaient pas des drogués de télé, mais ils y sont devenus depuis 6 ans des dépendants de Netflix.
Je suis en train de choisir un film.
On va regarder The Rabbi's Cat, voilà. Le chat du rabbin.
Un film français, c'est parti.
Il y a un choix énorme, mais en même temps, on ne trouve pas forcément ce qu'on a envie de voir.
En fait, on regarde beaucoup de vieux films, les nouveaux séries télé.
J'ai été effarée, en fait, un jour de me rendre compte qu'ils avaient regardé tout SpongeBob, Bob l'éponge.
Ouais, quand je regarde, je veux jamais arrêter. Il faut vraiment que les parents me forcent d'arrêter.
Tu regardes un épisode, et puis il est déjà minuit, puis tu en regardes un autre. On est tenté, on veut savoir la suite, quoi. Et ça a complètement changé l'usage qu'on fait de la télévision dans la famille.
Et ça coûtera 10 euros par mois en France, disponible sur la box Bouygues dès le mois de novembre, annonce ce matin le groupe Télécom.
C'était le journal de Philippe Corbet. Louis Bonin, Votre retour pour nous parler d'une chaleur qui est générale.
Voilà, puis qui va s'installer tout au long de la semaine, des températures qui vont encore grimper ces prochains jours. On frôlera les 30 degrés dans les régions du centre, y compris dans la moitié nord. On les dépassera allègrement dans les régions du sud. On l'a compris, le manteau, vous pouvez le laisser au placard. Et les petites tenues seront encore de rigueur ces prochains jours.
C'est heureux.